Alleluia, 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 alleluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait : Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel ? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Si on n'allume pas la lampe pour la mettre sur le boisseau, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, c'est une grande joie de pouvoir être ici ensemble et d'accompagner Olivia et Benoît dans ce moment fondateur de leur vie matrimoniale. C'est une grande joie de pouvoir prendre conscience de ce que veut dire un engagement devant le Seigneur. Durant la longue préparation et très sérieuse préparation au mariage que vous avez faite, Olivia et Benoît, et j'en suis témoin, vous avez eu à cœur d'approfondir cette dimension de l'engagement. Déjà, cet engagement, évidemment, il est incarné ô combien par le jeune Timothée, très présent dans notre célébration, et nous nous en réjouissons. Voilà, on l'a appelé, et il chante avec les anges, on le suppose. Et donc, du coup, cet engagement aussi, mais vous voulez que cet engagement soit pas seulement un engagement dans l'intimité de la famille, mais soit rendu public, qui est une dimension qui aille au-delà de vous-même. Et je trouve que c'est juste parce que, au fond, le chrétien, c'est celui qui porte en lui-même plus grand que lui-même. C'est celui qui, d'une certaine manière, ne peut pas dire « je » sans dire « tu », ne peut pas dire « tu » sans dire « nous ». Et dans le mariage, si c'est un acte éminemment personnel, ce n'est pas un acte solitaire. Vous embarquez avec vous, vos amis, vos familles, le jeune Timothée, les nombreux enfants qui suivront. Je crois qu'il y a 6 ou 7 cases pour le baptême dans le livret de mariage catholique. Je ne sais pas à la mairie, ou en tout cas, combien il y a de cases, mais toujours est-il qu'il y a cette idée qu'on célèbre quelque chose parce qu'on a conscience de quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui va plus loin que nous-mêmes et qui, et c'est vrai, quelque chose qui nous transcende. Et est-ce qu'il y a une communion possible sans la transcendance ? Est-ce qu'il y a un vrai engagement possible dans l'amour sans une ouverture à l'au-delà ? On peut se poser de la question et vous y répondez par cette célébration. Et pour nous, chrétiens, en tout cas, l'amour n'est pas simplement le face-à-face de psychologie plus ou moins équilibrée, non. Il s'ouvre à au-delà parce qu'il prend conscience qu'en lui-même, il y a un appel à plus. Cet appel à plus, vous le voyez à travers les lectures, c'est cet appel à creuser ce que vous avez reçu. Vous avez creusé à travers les lectures que vous avez choisies, la première lecture qui est tout simplement un programme de vie qu'on la relit. Je vous invite à relire. Je vous ai dit un peu un critère pour le choix de ces lectures, cher Olivia, cher Benoît, que ce soit une lumière pour votre vie matrimoniale et familiale, que vous puissiez revenir comme à une source. Et si les uns et les autres, vous vous êtes mariés à l'Église, vous pourriez faire mémoire des lectures que vous avez pu écouter, choisir au moment de votre mariage. Qu'est-ce qu'il est dit dans la première lecture de l'apôtre Romain ? Il est dit d'abord de vivre cet amour sans hypocrisie, c'est-à-dire que cet amour il s'enracine dans une vérité, dans quelque chose de vrai. Et je crois qu'à travers votre cheminement, vous avez expérimenté quelque chose de vrai. Vrai, ça veut dire pas toujours facile, mais vrai, c'est accueillir l'autre tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Vrai, ce n'est pas tant dire que l'on est fait l'un pour l'autre, je ne crois pas à ça, je ne crois pas que Olivia et Benoît sont faits l'un pour l'autre, de façon générale, je ne crois pour aucun couple ça, mais je crois qu'on se fait l'un à l'autre, et c'est toute une autre affaire. Être vrai, c'est rentrer dans un travail intérieur qui me permet d'accepter l'autre comme autre que moi-même, et donc d'approfondir. Vivre l'amour sans hypocrisie, c'est vivre un amour dans la vérité, et donc forcément c'est d'être plein d'affection, comme dit l'apôtre saint Paul, les uns en face des autres, et être ardent. C'est intéressant qu'il dise ça, soyez fervent d'esprit. Ça demande de l'énergie. Le couple, ça demande de l'énergie, mais qu'est-ce qui ne demande pas d'énergie ? Tout demande de l'énergie, forcément. Et donc prenez conscience que vous vous engagez dans un chemin qui à la fois vous donnera beaucoup et vous demandera beaucoup. Parce que accueillir l'autre comme autre que moi-même, ça demande beaucoup, ça n'a rien de spontané. Et je trouve que parfois, on entend un peu par-ci, par-là, des manières de voir les choses qui ne me paraissent pas forcément correctes, disons claires sur l'amour, comme si c'était quelque chose de facile, comme si c'était spontané, comme il suffisait de se croiser et que ça... Bon, voilà. Non. On confond amour et sentiment amoureux. Ça n'a rien à voir. Le sentiment amoureux, il est fait d'émotions, il est fait d'étoiles dans les yeux, de papillons dans le vent, etc. Mais le sentiment amoureux, on le sait bien, c'est passager. L'amour, c'est d'abord une volonté. Et quand je vais vous interroger, dans le dialogue que nous aurons au début du sacrement de mariage, je vais vous poser la question, est-ce que vous le voulez ? Je ne vous pose pas la question, est-ce que vous ressentez ? Je ne vous poserai même pas la question, est-ce que vous vous aimez ? Est-ce que vous voulez fonder un foyer pour toute la vie ? Et on sait bien que c'est une question de volonté. Et c'est là où ça sonde l'intime de la personne. C'est un vrai désir d'engagement qui, quelque part, nous renvoie à ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est-à-dire ce choix. Et ce choix, il n'a rien de spontané, parce que ces choix-là, eh bien, vous vous demandez aujourd'hui, en venant auprès du Seigneur, vous demandez qu'il puisse vous accompagner. Alors, c'est vrai que vous demandez ça dans la prière, vous demandez ça avec la foi qui est la vôtre, et voilà, vous faites... votre chemin de foi qui, je trouve, qui est assez honnête, sans trahir de grands secrets, je ne crois pas dire que vous soyez des piliers d'église, ni vous revendiquer comme tel, mais de ce point de vue-là, vous êtes bien les enfants de votre génération. Mais toujours est-il que, quand je vous ai accompagné, je me suis dit, qu'est-ce qui va faire que ça ne va pas être juste une oasis spirituelle dans un désert spirituel ? Moi, ça m'habite. Qu'est-ce qui va faire que ça ne va pas être un one-shot au plan de la foi. Eh bien, ce qui va faire que ça ne va pas être un one-shot, c'est l'énergie que vous y mettrez. Comme dit l'apôtre saint Paul, soyez plein d'affection, ayez du zèle, ne soyez pas nonchalant, soyez fervent d'esprit. C'est l'énergie que vous mettrez, la ferveur que vous mettrez, qui va faire que ce moment que vous vivez dans un lieu tellement particulier, Istanbul, c'est un lieu... c'est énorme, une petite superficie pour une très grande histoire, et à la fois un lieu qui est un lieu de pont entre l'Europe et l'Asie, de pont entre l'Orient et l'Occident, entre la chrétienté et l'islam, et un lieu de pont, c'est un lieu aussi qui, un lieu de tension. Et c'est vrai qu'il n'est de feuilleter que l'histoire d'Istanbul, de voir combien... ça a été un lieu de tension parce que c'est justement au carrefour de tellement d'engagements et d'enjeux. Eh bien, le fait de célébrer ici, ça dit quelque chose de votre couple. Et ça dit quelque chose aussi de votre vie professionnelle. Vous vous êtes engagé, cher Olivia, cher Benoît, dans les relations internationales et d'être chacun à votre place au service ensuite de l'Union européenne. Eh bien, s'engager dans les relations internationales, eh bien, ça a à voir aussi avec la vie de couple. Et j'aimerais bien que, si je peux me solliciter un désir pour vous, que vous puissiez inscrire au frontispice de votre maison et au stylo-feutre sur votre frigidaire et la glace de votre salle de bain, que vous puissiez inscrire cette parole « Les relations internationales commencent à la maison ». Et c'est là où on se dit que c'est pas facile. Parce que vous avez un grand désir de rapprocher les peuples les uns des autres. Vous ne seriez pas, et un certain nombre d'entre vous sont dans ce métier de rapprochement, que ce soit par vivre à l'étranger ou travailler aux relations internationales. Il y a une unité dans notre vie. Et c'est ça qui, cette célébration, elle renvoie à cette unité dans notre vie. De dire que rassembler les peuples, faire des ponts comme Istanbul fait des ponts, bien, c'est d'abord faire des relations, de votre relation, le centre même de votre vie. Vous êtes d'abord époux, vous êtes d'abord ce pont et ce lieu de réunification entre deux personnes. Et c'est vrai que le sacrement du mariage est assez unique de ce point de vue-là. Les autres sacrements, que ce soit le baptême, la communion, la confession, se reçoivent tout seuls. C'est déjà une dimension personnelle. Le sacrement du mariage, c'est le seul qui se reçoive à deux. C'est ce qui en fait aussi la difficulté, surtout dans nos sociétés assez centrées sur la personne et l'épanouissement personnel. Il peut arriver que l'autre puisse être un obstacle à l'épanouissement personnel, du coup, nous invite à creuser plus loin et nous invite à creuser plus loin dans notre volonté de cheminer à deux. Alors oui, je trouve que c'est beau de dire qu'il y a un lien entre votre vie professionnelle et le moment que nous célébrons aujourd'hui. Il y a un lien parce que vivre de l'Évangile, c'est vivre dans une unité. Et vivre dans une unité, c'est voir les choses dans la communion. Et cette communion, vous voulez la demander au Seigneur à l'étape où vous êtes de votre foi, avec toute cette sincérité qui la caractérise. Mais en même temps, et j'y ai bien insisté, que ce soit un début, que ce soit une remise, remettre le pied, j'allais dire, dans l'Église, et de redécouvrir quelque chose, et vous l'avez redécouvert dans cette préparation. Mais prenez conscience que vos enjeux de couple sont aussi plus grands que vous-même, de même que vos vies professionnelles sont plus grands que vous-même. Vous portez en vous-même plus grand que vous-même. Alors je trouve que ça nous aide tous, les uns et les autres, parce que ça nous renvoie à quelque chose qui nous élève, qui nous soutient, qui nous aide à aller plus loin que nos peurs, qui nous aide à aller plus loin que nos fermetures, à vivre vraiment ce jusqu'au bout de l'amour, à être fervent d'esprit, à vraiment vivre une volonté, une décision. Aimer, c'est décider. Et aimer, c'est choisir, et on le sait bien, choisir, c'est renoncer. Et on voit bien que dans ce mariage à l'Église, qui est si particulier, vous vous inscrivez dans une fidélité, et on voit bien que la fidélité n'est pas tellement au goût du jour, mais pourtant, la fidélité, c'est s'inscrire dans un rapport au temps, et un rapport au temps qui est long. Je vais dire, comme les relations internationales s'inscrivent dans un rapport au temps, et les peuples aussi s'inscrivent dans des rapports au temps, eh bien que ce rapport au temps que vous inscrivez dans cette célébration, vous puissiez y revenir. Ça veut dire que ne pas vous décourager, mais aussi avancer dans la vie avec ce sacrement, avec cette célébration, faire mémoire de ce jour-là, faire mémoire de ce lieu-là, de cette ville-là tout au long de votre vie, où que vous puissiez habiter, parce que c'est un lieu, une ville qui vous rappelle aussi que la communion est un choix et la communion est quelque chose qui se travaille. Et le Seigneur le rappelle dans l'Évangile de façon très belle, hein, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Le sel, c'est quoi? Le sel, c'est ce qui permettait, en tout cas dans l'Antiquité, au temps biblique, ce qui permettait de garder les aliments, il n'y avait pas de réfrigérateur, etc. Mais c'est ce qui permet, et permet encore aujourd'hui, de donner du goût. trouver le sel, trouver ce goût qui viendra de l'énergie que vous mettrez à vous unir et à faire que votre couple puisse grandir, parce que le mariage n'est pas le sommet dans l'amour. Le mariage, c'est le début, et ensuite vous engagez à grandir dans une communion. Mais aussi de pouvoir découvrir un sel qui vient du Seigneur lui-même. Et donc, demandons ensemble au Seigneur de pouvoir être attentif à ça et de pouvoir découvrir à travers ombres et lumières ce qui peut vous aider à approfondir votre relation, ce qui peut donner du sel à votre relation. Privilégiez votre couple. Et ça, c'est, je le dis à tous les couples qui sont ici présents, il y a parfois un danger lorsque... On forme famille, etc., de vouloir tourner les yeux tout de suite vers l'enfant, etc. Bon, bien sûr que c'est important, mais c'est d'abord le couple. De ce couple-là est né un enfant. Donc, privilégier le couple, c'est privilégier le temps que vous vous donnerez à deux. Et puis, la lumière, être une lumière. Je pense que là où vous êtes, vous avez éclairé des personnes, vous éclairerez encore d'autres personnes, de par votre simplicité, de par votre affection, votre tendresse mutuelle, de par l'accueil, comme il est dit dans les premières lectures, l'accueil que vous ferez des autres. Ben voilà, je trouve que c'est être sel et lumière, c'est un programme de vie pour chacun d'entre nous. Alors c'est ce qu'on demande pour vous, cher Olivia, cher Benoît, c'est ce qu'on demande pour nous tous, parce que cette célébration nous interroge aussi chacun, là où nous en sommes, de notre foi et de notre spiritualité. Et que nous puissions, là où nous sommes, être les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.